Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. René Bousquet a été le secrétaire général à la police sous le régime de Vichy. À ce titre, il a une lourde responsabilité dans la déportation de 60 000 juifs en France. Et pourtant, il est tombé en disgrâce avant la fin de l'occupation pour avoir été trop mou. Il a aidé des résistants, dont François Mitterrand, et continué sa carrière dans le privé après la guerre. Et si René Bousquet était un habile opportuniste et un républicain sans scrupules, prêt à vendre l'honneur des Français pour sauver celui de la France? C'est son histoire étonnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. René Bousquet, les ambiguïtés du premier flic de Vichy, épisode 1, les ambitions d'un héros national. Nous sommes le 23 juin 1949 au Palais de Justice de Paris. La Haute Cour de Justice est chargée de statuer sur les cas des hauts fonctionnaires qui ont servi le régime de Vichy. René Bousquet, l'ancien secrétaire à la police, est accusé d'avoir apporté son aide à l'occupant allemand. Il aurait nui à la défense nationale et porté atteinte à l'unité de la nation et à la liberté et à l'égalité des Français. Assis devant une petite table près de ses avocats, René Bousquet, 40 ans, reste maître de lui. Cheveux bruns plaqués sur le côté, yeux noirs perçants, nez aquilin, bouche fine, il ne manque pas d'allure dans ses costumes sombres. Il a méticuleusement organisé sa défense. Il explique avec aplomb que tout ce qu'il a fait pendant la guerre, c'était pour la France. Le verdict tombe enfin à l'issue de l'un des derniers procès d'épuration consécutive à la guerre qui ont pour but de condamner les traîtres qui ont participé au régime de Vichy. Et ce verdict est surprenant. René Bousquet est un fils de notable du Sud-Ouest. Il est né le 11 mai 1909 à Montauban. Enfant, il a entendu parler des conflits incessants contre la Prusse et subit la Première Guerre mondiale. La politique et le service public sont pour lui des évidences. Il baigne dans un milieu radical socialiste qui, au début du XXe siècle, est un parti de gouvernement marqué à gauche. Il est patriote et républicain. En 1930, alors qu'il a 20 ans, des inondations ravagent le bassin du Tarn. Avec l'un de ses amis, il sauve plusieurs dizaines de personnes de la noyade au péril de sa propre vie. Pour cet acte héroïque, le président de la République, Gaston Doumergue, le fait chevalier de la Légion d'honneur. L'année suivante, titulaire d'une licence de droit, il commence sa carrière de haut fonctionnaire avec le soutien des frères Sarraud, des politiciens originaires de Toulouse et des proches amis de son père. Dès l'âge de 22 ans, il cumule les postes prestigieux, chef adjoint de cabinet, puis sous-secrétaire d'État à l'intérieur dans le premier gouvernement de Pierre Laval. Celui-ci remarque le talent d'administrateur et l'ambition de René. Il lui accorde sa confiance et s'emploie à faciliter son ascension. Les deux hommes deviennent même amis. René Bousquet obtient ensuite un poste de sous-préfet, puis chef de cabinet, et en 1937, il est fait responsable du fichier central de la Sûreté nationale, c'est-à-dire les archives relatives à la police. C'est un premier contact direct avec le monde de la police. Il se montre alors intraitable avec la cagoule, des terroristes d'extrême droite alors très actifs. Quand la guerre éclate en 1939, Bousquet est secrétaire général de la préfecture de Chalon-sur-Marne. Alors que les Français s'élancent sur les routes pour fuir l'avancée spectaculaire des Allemands, il reste en poste et gère la débâcle avec méthode jusqu'à ce que son bureau soit délocalisé à Albi. Bousquet est un homme au sang-froid. Face aux Allemands, la France vacille et cherche un homme providentiel pour la sauver. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est la fin de la Troisième République et le début du régime de Vichy, dont Pierre Laval est l'artisan. Il est aussi le nouveau chef de gouvernement. Après la signature de l'armistice, les Allemands prennent le contrôle de la zone occupée, soit la moitié nord de la France, avec une bande qui suit le littoral atlantique jusqu'aux Pyrénées. C'est pour cette raison que le gouvernement provisoire s'installe à Vichy, en zone libre. Cette ancienne station balnéaire, mise à la mode par Napoléon III, est déjà dotée de nombreux hôtels capables d'accueillir les hauts fonctionnaires. Bousquet est alors promu préfet de la Marne. À 31 ans, il peut se vanter d'être le plus jeune préfet de France. Comme tous ses collègues, il vient prêter allégeance à Pétain à Vichy. Un seul préfet manque à l'appel. Il s'appelle Jean Moulin et il sera révoqué avant la fin de l'année. Si Jean Moulin n'a pas adhéré aux valeurs de Vichy, René Bousquet est un serviteur zélé de ce régime. Comme Vichy est un régime autoritaire, le gouvernement a besoin de s'appuyer sur une police forte. Celle-ci est donc réformée par une série de lois. Pour faire simple, la police, qui est majoritairement municipale, devient nationale. Elle est divisée en plusieurs directions. La Direction Générale de la Police Judiciaire, la Direction Générale des Renseignements Généraux et la Direction Générale de la Sécurité Publique. Vichy crée aussi un groupe mobile de réserve, un corps d'élite mobile qui sont les ancêtres des CRS et une école pour les officiers. Ce sont les bases de notre police actuelle, même si de nombreuses réformes ont continué à la remodeler et à la moderniser. Les salaires de la police sont revalorisés, les costumes redessinés, tout est fait pour donner du prestige à la fonction et le recrutement devient très sélectif. En avril 1942, Pierre Laval nomme Bousquet secrétaire général à la police. Le fonctionnaire devient le chef des flics de France, mais aussi de la gendarmerie. Personne n'avait eu un si grand pouvoir avant lui. Il dirige 100 000 hommes. Laval a besoin de mettre un homme de confiance à ce poste pour négocier avec les Allemands et préserver l'honneur de la France et la souveraineté de la police. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce régime de collaborateurs ne songe qu'au redressement de la patrie face aux Allemands qui voient la France comme une source de revenus et de travailleurs bon marché à cause du STO, le service du travail obligatoire. Certes, c'est une vision du redressement qui leur est propre, travail, famille, patrie. À Paris, les Allemands ont désarmé la police et leur ont appris comment les saluer. C'est une blessure d'orgueil pour le corps des fonctionnaires de l'époque. Le rôle de Bousquet est donc de continuer à garantir l'autonomie de la police française, pas de sauver des vies. Le régime de Vichy a d'ailleurs devancé les demandes des Allemands. Dès 1940, Vichy ordonne la francisation de l'administration. Ça veut dire qu'on en exclut les Juifs qui n'ont plus le droit d'être fonctionnaires. Vichy fait aussi interner les Juifs étrangers dans des camps en zone libre. Ces camps, où l'on enferme aussi des prisonniers politiques, n'ont pas grand-chose à envier aux camps allemands. On y meurt de famine et de maladie. En zone occupée, les Juifs sont recensés et on appose ce mot sur leur carte d'identité. Les camps de transit vers l'Allemagne, comme celui de Drancy, sont gérés par la police française. Le 5 septembre 1941, l'exposition « Le Juif et la France » est inaugurée au Palais Berlitz dans le 2e arrondissement de Paris en partenariat avec les services de propagande allemands. Sur l'affiche, on peut voir une caricature de Juifs aux doigts crochus en train d'étreindre un globe terrestre pour montrer que les Juifs contrôleraient le monde. 3 mois plus tard, le 12 décembre, les Allemands organisent la rafle des notables à Paris. 700 intellectuels juifs sont arrêtés. Quand Bousquet prend ses fonctions, la politique antisémite de Vichy s'est déjà déployée dans toutes les administrations. Ce qu'il ne sait probablement pas, ou très confusément, c'est que l'Allemagne est en train d'organiser la solution finale dans les pays occupés, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe. Les nazis ont pour objectif de tuer 11 millions de Juifs. C'est dans ce contexte que l'Allemagne négocie avec la France l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire. La rafle du Veldiv. Soyons très clairs, Bousquet ne se comporte pas comme un héros face aux Allemands. Il signe tous les ordres qui sont validés par Laval et contribue à organiser et superviser toutes les opérations qui impliquent la police française. Son rôle principal est seulement de protéger l'honneur de la police française en garantissant sa souveraineté. C'est ça que Laval attend de lui. Et c'est précisément ce qu'on constate dans les procès-verbaux des réunions de la Gestapo auxquelles participe Bousquet. En juin 1942, les Allemands exigent une livraison de 10 000 Juifs en zone libre et 20 000 en zone occupée, des hommes et des femmes âgés de 16 à 45 ans. Dans les procès-verbaux des réunions des Allemands, Bousquet considère comme très « gênant », le mot est en français dans le texte, de confier leurs arrestations à la police française. Comme l'écrira plus tard l'historien juif et ancien déporté George Wellers, le gouvernement de Vichy, qui était consentant pour se débarrasser d'une bonne partie de ses juifs, devait donner l'impression d'être violé pour ne pas heurter l'opinion publique qui n'accordait que peu de légitimité à Vichy. Et en même temps, Bousquet, toujours ambigu, n'a de cesse de vanter l'efficacité de sa police à la Gestapo. Une négociation est alors menée entre les Allemands, Laval et Bousquet. Une négociation amorale dans un contexte inhumain. La police française livrera les juifs étrangers, mais pas de juifs français. Pour atteindre les quotas demandés, elle livrera les enfants à partir de 2 ans. Pour rendre cette idée supportable, Laval la vend comme une mesure humanitaire pour ne pas séparer les parents et leurs enfants. Les Allemands sont un peu embarrassés parce que les deux chambres à gaz de Auschwitz ne tournent pas encore à plein régime. Il faut donc une autorisation de Berlin pour prévoir une date à laquelle déporter les plus petits. Selon les historiens, à cette date, Bousquet ne connaît pas l'existence des chambres à gaz qui sont nouvelles, mais il ne peut pas ignorer que les déportés sont envoyés vers une mort certaine. À l'issue de la négociation avec les Allemands, il est convenu que c'est donc la police française, souveraine sur son territoire et aux ordres de Bousquet, qui se chargera des arrestations massives des 16 et 17 juillet 1942. 15 juillet au soir, on distribue à 9000 policiers mobilisés les 25 334 fiches recensant les Juifs à Paris et en proche banlieue. Les historiens savent, sans vraiment pouvoir le quantifier, que dans la nuit du 15 au 16, certains policiers sont allés frapper à des appartements de Juifs ou prévenir les gardiennes d'immeubles pour leur dire de partir avant leur arrivée. Selon l'historien Robert Paxton, cela pourrait représenter environ 5% des personnes visées par cette rafle. Dès 4h du matin, la police commence son triste labeur. Elle arrête sans distinction tous les Juifs qu'elle trouve. Il ne reste plus beaucoup d'hommes valides à Paris. Elle arrête donc des femmes, des enfants, des vieillards et des malades, sous le regard désapprobateur et impuissant de nombreux voisins. Les célibataires sont envoyés à Drancy. Les autres sont entassés au vélodrome d'hiver. Les bus de la ville, réquisitionnés pour l'occasion, sont encadrés par des fourgonnettes de police. Ils y déposent 3031 hommes, 5082 femmes et 4051 enfants. Les déportés y passeront plusieurs jours, sans eau, sans nourriture et sans hygiène, au milieu des cris d'enfants, des tentatives de suicide et des femmes qui s'avortent dans les toilettes en espérant une évacuation. Au final, c'est bien le gouvernement français qui enverra les enfants du Veldiv au camp de Beaune-la-Rolande, où ils attendront seuls pendant plusieurs semaines que les trains de la SNCF les acheminent vers l'Allemagne. Laval refuse même qu'une association humanitaire américaine vienne les emmener dans leur pays. Le Veldiv n'est qu'un demi-succès pour les nazis, mais les chefs de la police allemande félicitent Bousquet pour son efficacité. En février 1943, Bousquet fait de nouveau face aux demandes de déportation des Allemands. Il fait à l'occupant une nouvelle réponse ambiguë dont seul lui a le secret. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à René Bousquet, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.